France Culture.
Précisément 18h sur Culture, le journal Servan de Pastre. Bonsoir Servan.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Nous serons à Tel Aviv en début de ce journal. Le chef de la diplomatie américain Marco Rubio s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Les deux hommes font front commun dans leur viseur, le Hamas, mais aussi l'Iran. Le sommet sur la sécurité de Munich, à peine fini, les dirigeants européens décident de se rencontrer à nouveau. Ils seront 7 autour de la table demain à Paris. Au menu, la sécurité du vieux continent et l'Ukraine. Et enfin, un an jour pour jour après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, plus de 1500 personnes se sont recueillies sur sa tombe à Moscou, malgré les risques. Il menace d'ouvrir les portes de l'enfer au Hamas et de finir le travail avec l'Iran. Les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la suite d'une rencontre avec Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Les deux hommes ont également évoqué la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer ses habitants en Égypte et en Jordanie. Ce alors que la trêve entre le Hamas et Israël se fragilise de jour en jour. Boris Lohmann, bonjour.
Bonjour Servan.
Vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. Les deux alliés, États-Unis et Israël, sont apparus plus proches que jamais.
Oui, Marco Rubio et Benjamin Netanyahou ont affiché une grande proximité sur plusieurs dossiers, à commencer par Gaza et cette proposition du président américain d'en expulser ses habitants. Le chef de la diplomatie américaine a reconnu cet après-midi que cette idée avait pu choquer et surprendre certains. Mais, insiste-t-il, il faut sortir des idées éculées pour trouver une solution durable. Le premier ministre israélien, quant à lui, approuve cette idée, je cite, audacieuse, front commun donc sur la question de l'avenir de Gaza, front commun également sur les représailles à venir contre le Hamas si tous les otages ne sont pas rapidement libérés, avec cette déclaration de Benjamin Netanyahou.
Je veux assurer tous ceux qui nous écoutent. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination. Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours dévoiler les détails en public, notamment quand les portes de l'enfer vont s'ouvrir, comme ce sera sûrement le cas si tous nos otages ne sont pas libérés jusqu'au dernier.
Et Marco Rubio est allé dans le même sens en insistant sur la nécessité d'éradiquer le Hamas.
Beaucoup de points d'accord donc entre le secrétaire d'État américain et le premier ministre israélien, notamment sur le dossier iranien.
Oui, Washington et Tel Aviv sont sur la même ligne là encore, mais c'est surtout Marco Rubio qui s'est montré particulièrement menaçant tout à l'heure envers Téhéran.
C'est la plus grande source d'instabilité dans la région. Derrière chaque groupe terroriste, derrière chaque acte de violence, derrière chaque manœuvre de déstabilisation, derrière tout ce qui menace la paix et la stabilité pour les millions de personnes qui vivent dans cette région, il y a l'Iran. Par Iran, j'entends les ayatollahs et leur régime. Et on doit régler ça.
Et voilà pourquoi, d'après la diplomatie américaine, Téhéran ne pourra jamais avoir l'arme nucléaire. Israël, de son côté, finira le travail contre la menace iranienne, a conclu Benjamin Netanyahou, qui a pu bénéficier par ailleurs ce matin d'une livraison de bombes lourdes de la part de son allié américain pour faire face, d'après Washington, aux menaces régionales.
Merci Boris Lohmann, vous étiez en direct de Tel Aviv avec les moyens techniques d'Éric Audra. Les négociations portant sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël vont se poursuivre la semaine prochaine. Elle stipule notamment la libération de l'ensemble des otages et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien se réunira dès demain sur ce sujet. Les dirigeants espagnols, allemands, polonais, britanniques, italiens, néerlandais et danois, ainsi que le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, et le secrétaire général de l'OTAN sont attendus à Paris demain. Une réunion informelle convoquée par Emmanuel Macron qui portera sur la sécurité du vieux continent et sur l'Ukraine. Elle intervient au lendemain de la conférence sur la sécurité de Munich, sommet lors duquel l'émissaire spécial des États-Unis pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a affirmé que l'Europe n'aurait pas de place à la table des négociations sur la paix en Ukraine. Alors que peuvent faire les Européens pour revenir dans la négociation? Réponse de Camille Grand, il est chercheur au Conseil européen sur les relations internationales.
Alors, on est dans un vrai moment historique. Ce qui se joue maintenant, c'est de savoir si la paix en Europe va se faire entre Russes et Américains seulement, ou est-ce que les Européens auront leur mot à dire dans cette paix. Parce que si on n'est pas à la table des négociations, on est au menu des négociations et les Européens sont simplement invités à payer et à payer aussi les pots cassés de cette paix avec leur sécurité qui sera fragilisée et beaucoup d'autres conséquences. Donc on est dans un moment tout à fait décisif et il est très important que les Européens soient unis et clairs dans ce moment-là. L'Allemagne est à une semaine de ses élections, qu'il y a des pays qui sont plus allants pour aller dans le sens des États-Unis et signer une paix un peu à n'importe quel prix. Le président de la République, mais également le premier ministre polonais ou la première ministre danoise sont très clairs sur le soutien à l'Ukraine. Donc il y a des nuances, hein, clairement, entre les différents leaders européens. Mais ces nuances, à mon avis, doivent être aplanies pour faire passer un message très clair aux États-Unis, qui est nous sommes prêts à aider ce processus de paix en Ukraine, mais pas n'importe quelle paix et pas à n'importe quel prix, et surtout pas une paix qui mette la sécurité de l'Europe en danger demain.
Camille Grand au micro de Frédéric Seitz. Un an jour pour jour après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, les hommages se multiplient. Sa veuve, Yulia Navalnaya, exilée à Berlin, a appelé les Russes à poursuivre la lutte pour un pays libre et pacifique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué, lui, un homme mort parce qu'il s'est battu pour la démocratie. C'est les circonstances qui entourent le décès de l'opposant numéro 1 du Kremlin dans un camp de travail dans l'Arctique sont toujours obscures. Sa mémoire, elle, est bien vivante, comme en témoignent les centaines de personnes qui se sont rendues sur sa tombe aujourd'hui à Moscou, bravant les risques de représailles, Isabelle Labéry.
Sa tombe est recouverte d'un immense tas de fleurs. Longues tiges vertes, pétales rouges et blancs se mélangent au message de soutien déposé par les visiteurs. Sous une pluie glaciale mêlée de neige, la longue file d'attente serpente bien au-delà du cimetière, sur plusieurs centaines de mètres. Malgré la présence de policiers en civil qui filment, malgré les menaces diffusées sur les réseaux sociaux par des comptes pro-Kremlin, ses partisans sont venus dire leur soutien, presque étonnés de se voir aussi nombreux. La mère d'Alexei Navalny, accueillie par des applaudissements, prend brièvement la parole pour dénoncer le meurtre de son fils. « Le monde entier connaît le commanditaire, dit-elle, mais nous voulons que soient connus les exécutants. » Privée de sa figure de proue, l'opposition à Vladimir Poutine n'a jamais été aussi affaiblie et divisée. Ses membres sont soit en exil, soit en prison. Dans un communiqué, 18 pays, dont le Canada, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, dénoncent l'attitude du Kremlin qui continue d'écraser la dissidence pacifique, de maintenir un climat de peur et de porter atteinte à l'état de droit. Ces pays réclament la libération des prisonniers politiques. Ils sont aujourd'hui plus de 800 dans les geôles russes.
La France qui a également réitéré sa demande de l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions du décès de l'opposant. Ils sont entrés en colonne dans la ville de Bukavu, en RDC. Les combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises ont pris cette ville de 1 million d'habitants, capitale de la province du Sud Kivu. Après avoir conquis Goma, capitale du Nord Kivu fin janvier, la chute de Bukavu donne à la milice le contrôle total du lac Kivu. L'Union africaine met en garde contre une balkanisation du pays et appelle au retrait immédiat du M23. Londres dit craindre un conflit régional plus large. Le chef du PS, Olivier Faure, annonce la tenue d'un congrès de son parti au mois de juin prochain. À la tête de sa formation politique depuis 7 ans, il annonce qu'il sera à nouveau candidat à sa succession. Il devra faire face à la contestation en interne, celle de militants souhaitant une rupture définitive avec la France insoumise. Olivier Faure, qui encourage François Bayrou à démissionner s'il a participé, je cite, à la loi du silence au collège-lycée Notre-Dame de Bétarame. L'institution est visée par plus d'une centaines de plaintes pour agressions sexuelles, viols et violences entre les années 70 et 90. Le Premier ministre a affirmé hier, à l'issue d'une réunion avec un collectif de victimes, avoir fait tout ce qu'il devait faire en étant ministre de l'Éducation à la fin des années 90. Mais cela sera-t-il suffisant alors que le PS compte déposer une nouvelle motion de censure contre son gouvernement demain ? Pas forcément, selon le politologue Philippe Moreau-Chevrolet.
François Bayrou, le problème pour lui, c'est que c'est une crise dans la crise dans la crise. Donc il a énormément de sujets de ce type à gérer et il a un problème avec sa communication, c'est qu'il a visiblement dit des choses inexactes qui ont été contredites par Mediapart. Il a été ensuite ciblé par la gauche de manière extrêmement forte. L'extrême droite s'est réveillée hier avec Jordan Bardella et il s'en sort pas très bien parce qu'il communique... Il a d'abord passé par une phase de déni, comme beaucoup d'hommes politiques, quand on leur reproche quelque chose qui est assez mauvais. Il vaut mieux reconnaître les faits, reconnaître éventuellement des fautes et s'amender. La deuxième partie de sa communication est meilleure parce qu'il est en train d'essayer de construire une sortie par le haut en expliquant qu'il va agir sur le terrain de la protection de l'enfance. Et il faut savoir qu'il y a une opportunité pour lui, entre guillemets, qui ferait du bien à tout le monde et qui permettrait de donner du sens, en tout cas, à cette séquence, c'est de redonner des moyens à l'aide sociale à l'enfance.
Philippe Moreau, Chevrolet sur France Inter. Et puis c'est une découverte qui vaut désormais 3,1 millions d'euros. Un bronze de l'artiste Camille Claudel a été vendu aux enchères cet après-midi. Il avait été retrouvé par hasard dans un appartement parisien inhabité, caché sous un drap. Le temps de demain, le soleil brillera sur tout le pays, bien que voilé sur la moitié ouest du pays. Les températures restent fraîches au nord. Il fera 5 degrés à Strasbourg, 7 à Paris, 12 à Lyon et 18 degrés à Perpignan.